Les infos à Washington.
Raissa Girondin, votre compagnie pour votre bulletin d'information. Au Burkina Faso, des individus armés non identifiés ont attaqué lundi nuit le poste de gendarmerie de Pama dans la province de la Kompianga dans l'est du pays, selon plusieurs médias locaux citant des sources sécuritaires. L'attaque n'a fait aucun blessé dans les rangs des éléments de la brigade attaquée, mais le véhicule d'une équipe envoyée en renfort a sauté sur un engin explosif, tuant au moins 4 militaires. Nous y reviendrons dans nos prochains bulletins. Et toujours au Burkina Faso, un référendum constitutionnel se tiendra le 24 mars 2019 en vue d'instaurer un régime semi-présidentiel. Bagassi Koura.
C'est le président de la commission électorale, Newton Ahmed Barry, qui a fait cette annonce, joint par VOA Afrique. Il explique que la date a été arrêtée il y a 2 semaines en accord avec le gouvernement qui doit bientôt prendre un décret dans ce sens. En cas d'adoption, la nouvelle constitution promise par le président Roch Kabore devra mettre fin à la 4e République instaurée par le président Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir par un putsch. Le projet de nouvelle constitution doit donner naissance à un régime semi-présidentiel avec une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Le projet prévoit aussi une procédure de destitution du président par la Cour constitutionnelle. En vue de préparer ce référendum en 2019 et les élections présidentielles et législatives de 2020, une opération de révision du fichier électoral devra débuter dans les prochaines semaines pour l'enrôlement des Burkinabés en âge de voter en 2019 et ceux de l'extérieur qui voteront pour la première fois, a précisé la CENI.
Au Mali, l'un des principaux responsables du groupe État islamique au Grand Sahara, Mohamed Ag Amouner, et 2 civils ont été tués dans une opération de l'armée française dans la région de Ménaka, dans le nord. La frappe a eu lieu dimanche. Ce groupe est actif dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il est dirigé par Adnan Abdoud Walid Sahraoui, un transfuge d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. 2 autres civils ont été blessés. L'investigation est en cours pour déterminer comment des civils ont été atteints lors de la frappe, selon l'état-major français. 4 Tchadiens ont été condamnés à mort hier pour fait de terrorisme lors de l'assassinat en juin à N'Djamena d'une commerçante chinoise. Ils ont 10 jours pour faire un pourvoi en cassation ou demander la grâce du président de la République, selon le ministre de la Justice, Djimet Arabi. Au Soudan du Sud, le chef des rebelles, Riek Machar, refuse de signer l'accord de paix définitif avec le gouvernement, mettant fin à un conflit qui dure depuis plusieurs années. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre des Affaires étrangères soudanais, Al-Dirdiri Mohamed, lors d'une conférence de presse à Khartoum. Les autorités soudanaises ont joué les médiateurs dans les dernières négociations entre le président Salva Kiir et les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar, qui ont abouti à la signature d'un cessez-le-feu le 5 août dernier. De précédents accords de paix ont été négociés, mais n'ont tenu que quelques mois avant une reprise des combats. En République démocratique du Congo, le procès des assassins présumés de 2 experts des Nations Unies et de leurs accompagnateurs en mars de l'année dernière a repris hier après 10 mois de suspension. 13 des 26 prévenus ont comparu devant une juridiction militaire à Kananga, dans la province du Kasaï central. Parmi eux figuraient 2 nouveaux prévenus, dont le chef du village Muyumusuila, où les 2 jeunes experts ont été tués. Les 2 hommes sont poursuivis pour crime de guerre par mutilation, rapporte la radio onusienne Okapi. Le chef de village nie toute participation à ce crime. Il met en cause l'autre prévenu qu'il a présenté comme le chef milicien qui a installé le mouvement Kamuina Nsapu dans son village en 2017. Selon Okapi, l'audience a été renvoyée à jeudi. Et en République démocratique du Congo, toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU, préoccupé par l'organisation des élections de décembre prochain dans ce pays. Abdourahman Dia.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, s'est posé beaucoup de questions sans réponse sur l'utilisation des machines à voter. Anne Gengen, numéro 2 de la délégation française à l'ONU, a estimé que le respect du calendrier électoral est indispensable, assurant que l'ONU pouvait apporter une aide logistique. Kinshasa rejette toute assistance étrangère dans l'organisation du scrutin. pour Leila Zerougui, émissaire de l'ONU en RDC, la crédibilité du processus électoral demeure une préoccupation majeure, mais Ignace Gata Mavita, ambassadeur de la RDC à l'ONU, a pris la défense de la CENI, disant que les résultats obtenus jusqu'ici doivent inciter à faire confiance à cette institution. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Lindiwe Sisulu, affiche elle aussi sa confiance au processus électoral congolais. Ce week-end, la commission électorale a annoncé avoir retenu 19 candidats sur les 25 qui avaient déposé un dossier. Parmi les recalés, Jean-Pierre Bemba et trois anciens premiers ministres ont saisi la Cour constitutionnelle.
Et pour clore ce dossier sur la RDC, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays est monté à 75 morts, d'après le ministère de la Santé. Des représentants de la société civile ont demandé le report de la rentrée scolaire prévue le 3 septembre dans le territoire de Beni à titre préventif. Au Sénégal, début d'une campagne de collecte de parrainage destinée à limiter le nombre de candidatures dans un pays qui compte plus de 300 partis politiques. Mais déjà plus de 80 candidats ont manifesté leur intention de se présenter à la présidentielle de février prochain. Jean-Roger Bion.
Les représentants de 85 candidats à la candidature se sont présentés lundi pour récupérer les fiches de collecte des signatures au ministère de l'Intérieur. Cette campagne doit durer jusqu'à la période prévue pour le dépôt des candidatures entre le 11 et le 26 décembre. L'ancienne première ministre Aminata Touré, déléguée de la majorité, a estimé que c'était beaucoup trop. Ces candidatures devront cependant passer au tamis de la loi sur le parrainage. Cette loi, votée en avril, impose dorénavant à tous les candidats de recueillir environ 52 000 signatures réparties dans au moins 7 des 14 régions du pays. Le nouveau texte vise à filtrer les candidats après une pléthore de prétendants comme lors des législatives de juillet 2017 où les électeurs devaient choisir entre 47 listes avec tous les problèmes d'organisation. L'opposition affirme que la nouvelle loi est taillée sur mesure pour éliminer les potentiels concurrents au président Macky Sall.
Et en Libye, de violents combats ont opposé hier deux groupes armés rivaux près de la capitale Tripoli, faisant au moins 5 morts et 33 blessés selon un bilan provisoire. Les deux groupes sont théoriquement liés au gouvernement d'union nationale, lequel est reconnu par la communauté internationale. La mission de l'ONU en Libye a appelé toutes les parties à cesser immédiatement toute action militaire. Elle se dit préoccupée par l'utilisation d'armes lourdes dans les zones résidentielles densément peuplées, mettant en danger la vie des civils. Et l'actualité dans le reste du monde, les États-Unis et le Mexique ont conclu un accord commercial hier après de longues semaines de négociations, espérant maintenant que le Canada pourra se joindre à eux pour donner naissance à l'accord de libre-échange nord-américain ALENA version 2.0. Claire Morin-Gibourg.
C'est un grand jour pour le commerce, a déclaré hier le président Trump depuis le bureau ovale. L'un des points les plus importants de cet accord concerne le secteur automobile. Désormais, 75% du contenu des automobiles doit être issu des États-Unis ou du Mexique et 40% à 45% du contenu d'une automobile doit être produit par des travailleurs gagnant au moins 16 dollars de l'heure. Le Canada, signataire de l'accord de libre-échange nord-américain ou ALENA, n'a pas participé à cette phase des négociations, préférant laisser le Mexique et les États-Unis régler d'abord leurs nombreux différends. D'ailleurs, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est attendue aujourd'hui à Washington pour poursuivre les négociations. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait dénoncé l'ALENA qu'il jugeait désastreux pour les États-Unis. Le président a affirmé qu'il ne souhaitait pas garder le nom de l'ALENA, préférant évoquer un accord commercial États-Unis-Mexique.
Et Washington a réfuté ce mardi la compétence de la Cour internationale de justice dans la procédure engagée par l'Iran. L'Iran qui cherche à obtenir la levée des sanctions américaines réimposées par le président Donald Trump. Ce mardi marque le deuxième jour des audiences devant la Cour basée à La Haye. En mai dernier, le président américain a retiré son pays de l'accord sur le nucléaire signé par Téhéran et les grandes puissances en 2015. L'Iran s'y engage à ne jamais chercher à se doter de l'arme atomique. Et critiqué pour son silence après le décès du sénateur républicain John McCain, le président américain Donald Trump lui a finalement rendu hommage en ordonnant la mise en berne des drapeaux à travers le pays. En dépit de nos différences politiques, je respecte l'engagement du sénateur John McCain pour notre pays, a-t-il souligné. Voilà pour l'information. Restez avec nous pour la suite de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.